Nous reprenons donc la deuxième partie, au cours de laquelle nous allons regarder plusieurs aspects liés à l'unité du corps localement et à l'unité du corps entre églises. Nous allons aborder des sujets plus pratiques que dans la première partie, encore que. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus pratique que de montrer du support, du pardon, etc., hein, comme on a vu, sujet directement lié à l'unité du corps. On va aborder un certain nombre de sujets que traditionnellement dans les assemblées de frères on reliait au sujet de l'unité du corps, mais je vais avoir parfois l'air de me contredire un peu puisque dans la première partie j'ai montré que ce n'était pas forcément toujours le cas. Mais néanmoins, je le dis en particulier pour ceux qui n'ont pas forcément le même arrière-plan que le mien ou que d'autres ici, on va aborder un certain nombre de sujets qui sont souvent reliés à cette question de l'unité du corps et de la façon de la vivre, et en particulier ces questions qui concernent la réception, la discipline, la souillure, l'appartenance, les relations entre églises, etc. Alors, commençons par ce sujet de la réception. Qu'est-ce que ça veut dire, la réception ? Ça veut dire qu'on reçoit quelqu'un comme faisant partie du corps de Christ, de l'Église, plus généralement, de l'Église de Jésus-Christ, vu comme corps, comme épouse, comme un, etc. Mais on parle souvent du corps, peut-être un peu trop d'ailleurs en relation avec cela. Et qu'on le reçoit, et comme je le mets, c'est pas simplement pour la scène, c'est pour la vie d'église. Ça se matérialise à la scène comme ça peut se matérialiser à d'autres moments de la vie de l'église, mais ce n'est pas exclusif. Alors, quelles sont les conditions pour quand on reçoit quelqu'un, qu'on le reconnaît comme membre du corps de Christ? Eh bien, c'est qu'il faut qu'il en soit, c'est-à-dire qu'il soit un vrai chrétien. C'est une condition qui me semble être nécessaire, et nous prêchons pour des églises qui soient des églises de professants au bon sens du terme, pas au sens souvent auquel on l'entend, c'est-à-dire des gens qui font profession de foi, c'est-à-dire qui disent qu'ils ont une profession de foi, au sens professant opposé à l'église de multitude, où toute personne qui vient peut être reçue. De sorte que nous sommes des églises de professants, j'ose le dire, même si parfois on tord le terme en le prenant à contresens. Donc, c'est nécessaire d'être membre du corps de Christ, ce n'est pas suffisant. Pourquoi ce n'est pas suffisant? Pour que quelqu'un ait pleinement sa place dans le corps, ça on l'a vu que c'était lié à la réalité de la vie de Christ. Tous les Corinthiens étaient membres du corps, même ceux qui se conduisaient mal, mais par rapport à la vie de l'Église. Chose qu'on met souvent un peu abusivement, encore une fois, derrière cette notion d'unité du corps. La première condition supplémentaire me semble être l'état moral. Dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, davantage avec l'Église d'ailleurs vue comme maison que comme corps, ce qui est plutôt le sujet du début de cette première épître aux Corinthiens, Paul dit « Si quelqu'un a appelé frère, donc appelé frère, a priori les croyants, et les fornicateurs, avares, idolâtres, outrageux, ivrognes, ravisseurs, que vous n'ayez pas de commerce avec lui, que vous ne mangiez même pas avec un tel homme. » Deuxième condition supplémentaire, l'état doctrinal. En 2 Jean au verset 9 et 11, « Quiconque vous mène en avant et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine, celui-là a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison, ne le saluez pas, car celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. » Est-ce qu'il y a d'autres conditions? Point d'interrogation, personnellement, je n'en suis pas sûr du tout. Pour revenir sur les deux points précédents, état moral, état doctrinal, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que sur l'état moral, insister sur un point, c'est quelqu'un appelé frère et fornicateur, et avare, et outrageux, et ivrogne. Peut-être que c'est arrivé à l'un ou l'autre d'avoir un petit coup de trop dans le nez. C'est peut-être arrivé à quelqu'un d'avoir des oursins dans les poches. Pour autant, il n'est pas forcément avare, il n'est pas forcément ivrogne. Donc, il est question ici d'un état caractérisé, et non pas d'une chute ponctuelle dont on a honte immédiatement après. Deuxième élément, ce qui rapproche aussi ces deux éléments-là, on peut le trouver dans Galates 5 et dans 1 Corinthiens 5, c'est que dans les deux fois, il est question d'un levain. Et ça, on aura l'occasion aussi d'en dire quelque chose à propos de la discipline. Donc un levain, c'est quelque chose de cette substance qui fait qui se diffuse à l'ensemble de la pâte. Alors, qu'est-ce qui n'est pas des conditions de réception? Parfois, vous savez, c'est intéressant de tourner les questions à l'inverse. Donc, quelles sont les conditions de réception? Quelles ne sont pas les conditions de réception? Des avis différents sur des points secondaires. Romains 14, verset 1 nous dit « Accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas des opinions. Accueillez-le. Accueillez-le. » On peut avoir des idées un peu bizarres sur le dimanche le versus le samedi, sur est-ce qu'on fête Noël, est-ce qu'on fête pas Noël, sur les viandes. Alors les viandes aujourd'hui, c'est plus un sujet. Encore qu'avec certains frères américains, la consommation de vin peut en être une. Mais ça peut être des sujets sur les vêtements, ça peut être des sujets sur les loisirs, ça peut être des sujets sur télé, pas télé, etc. Des tas de choses. Des avis différents sur des points secondaires. Accueillez. Accueillez-vous. Recevez-vous les uns les autres comme aussi le Christ vous a reçu à la gloire de Dieu. Une connaissance incomplète de la doctrine n'est pas une condition pour qu'on puisse vivre ensemble. Mais ce qui est important, me semble-t-il, c'est de montrer qu'on désire garder l'unité du corps. Et je reviens encore à ce texte qu'on a déjà vu, qui me semble si capital par rapport à ce sujet. De Éphésiens 4, versets 1 à 3. Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de l'appel dont vous avez été appelés, avec toute humilité, douceur, longanimité, vous supportant l'un l'autre dans l'amour, vous appliquant à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ce qui recommande quelqu'un pour participer à la vie de l'Église, c'est d'abord et avant tout son état d'esprit. Est-ce que c'est quelqu'un qui arrive avec un état d'esprit de supériorité, qui arrive pour tout bouleverser, qui arrive pour... Non. Si c'est quelque chose comme ça, c'est pas l'état d'esprit d'Éphésiens 4, versets 1 à 3. L'état d'esprit d'Éphésiens 4, 1 à 3, c'est ce qu'a montré le Seigneur Jésus, celui qui peut dire qu'il est doux et humble de cœur. Et c'est à cette image-là, à la suite du Seigneur, que nous avons à vivre dans notre vie d'Église. Alors, en pratique, comment on le vit ? Eh bien, voilà, il y a quelqu'un qui rentre, je Ségur, et la personne est connue par l'un d'entre vous. Nous sommes d'accord que nous cherchons à vivre la vie d'Église entre vrais croyants. On voit bien que la parole de Dieu, je cite 1 Corinthiens 10, verset 30 par exemple, nous dit bien qu'il y a les Juifs, les Grecs et l'Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu est formée des vrais croyants, quelle que soit leur origine. Eh bien, supposons que la personne soit connue de l'un d'entre nous. Eh bien, c'est la meilleure façon de procéder. Étant arrivé à Jérusalem, que fait Paul ? Il cherche à se joindre aux disciples. Mais les autres, ils se rappelaient de mauvais jours. Tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Ils disaient, il joue la taupe. Mais Barnabas le prit, le mena aux apôtres, leur raconta comment sur le chemin il avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment il avait parlé ouvertement à Damas au nom de Jésus. Il était avec eux à Jérusalem, allant et venant et parlant ouvertement au nom du Seigneur. On a eu une discussion un peu amusante il y a quelques années avec un frère qui me disait « Oh mais moi je pensais que le nec le plus ultra c'était la lettre de recommandation. » Personnellement, il ne me semble pas. Le nec le plus ultra c'est quand il y a quelqu'un qui connaît qui dit « Mais ce frère-là, je suis dans le corps avec lui, je partage la même foi, je peux en témoigner, comme Barnabas a pu témoigner vis-à-vis de Paul, parce qu'il avait vu, Paul, il y avait eu cette interaction, il y avait eu ces jointures et ces liens, ce fournissement qui s'était mis en jeu. Et Paul a pu recevoir ce témoignage de la part de Barnabas vis-à-vis des apôtres. Et donc, le cas le plus simple, c'est quelqu'un qui est connu par un ou des frères ou une sœur du lieu. Une sœur peut fort bien aussi dire à un frère, ben voilà, j'ai telle amie qui vient, je la connais comme une véritable enfant de Dieu, elle marche, elle a le cœur de suivre le Seigneur et n'est pas ni dans un état de fornication, etc. Je vous la recommande. Alors, parfois, ce n'est pas toujours possible. Parfois, ça doit se faire par lettre. Paul n'était jamais allé à Rome. Il envoie une lettre à Rome. Elle est un peu longue, sa lettre de recommandation. Hein, je vous l'accorde. Il y avait 15 petits chapitres avant. Mais enfin, un des buts de l'épître aux Romains, c'était quand même d'être une lettre de recommandation. Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est servante de l'assemblée qui est à Sancré, afin que vous la receviez dans le Seigneur, comme il convient à des saints, et que vous l'assistiez dans toute affaire pour laquelle elle aurait besoin de vous, car elle-même aussi a été en aide à plusieurs et à moi-même. Par parenthèse, je remarque que Paul ne met nulle part qu'il faut la recevoir pour la scène du Seigneur. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que ça fait partie de la vie de l'Église. J'aurais presque dire ni plus ni moins, si c'est un petit peu plus quand même, mais ça fait partie. Il la recommande en tant que sœur et pour que on prenne soin d'elle. Et le soin d'elle, ce sera naturellement, bien entendu, partager le repas du Seigneur avec elle, tout naturellement. Et la seule fois où il est question de lettre de recommandation dans la parole de Dieu, enfin à ma connaissance, vous avez peut-être d'autres passages en tête, c'est 2 Corinthiens 3, verset 1, où Paul le prend en négatif en disant « Est-ce qu'on aurait vraiment besoin de lettre de recommandation pour vous après tout ce qu'on a fait à Corinthe ?» Alors, est-ce qu'il y a une différence à faire entre communion occasionnelle ou une communion habituelle? Est-ce qu'il y a un délai plus ou moins long, une information spéciale en cas de communion habituelle? On a été interpellé récemment dans notre église par quelqu'un qui nous a dit, mais il y avait un jeune de l'église qui souhaitait participer au repas du Seigneur. Bon, on a son histoire, hein, donc ça n'a pas été forcément le dimanche suivant. Puis il y en a quelqu'un qui nous a dit, mais voilà, on a eu le cas aussi, on avait le cas presque en même temps de quelqu'un qu'on ne connaissait pas directement, mais qui était en visite et qui a participé au repas du Seigneur, parce qu'il était connu d'un d'entre nous. Bon, voilà, alors cette personne-là, qui est connue que d'une seule personne, ça va tout de suite. Par contre, ce jeune, qu'on connaissait tous très bien, on savait tous très bien son engagement chrétien, etc., on le fait passer par les étapes. Je vous signale que ce n'était pas toujours ce qui se pratiquait avant. Mon grand-père me racontait une fois une histoire qui se passait dans une petite assemblée de la Drôme. C'est une assemblée rurale. L'histoire se passe, je pense, un petit peu avant la Première Guerre mondiale. Et il y avait deux familles qui habitaient deux fermes proches l'une de l'autre. Et en général, ils se rendaient ensemble à l'église qui était dans un petit village à quelques kilomètres de là, et à l'époque, on y allait à pied. Et donc, tous les dimanches, il y avait un des frères anciens qui habitait dans une ferme et qui allait avec un de ses amis, qui est un frère qui habitait dans l'autre ferme, et avec le fils de ce deuxième frère. Et bon, ils vivaient ensemble, deux fermes l'une à côté de l'autre, et puis un dimanche, le frère ancien a tapé sur l'épaule du fils de son ami en lui disant « Bien, écoute, aujourd'hui tu prendras le repas du Seigneur avec nous. » Voilà, pourquoi ? Parce qu'il avait vu ce jeune grandir, il avait vu comment il arrivait avec une maturité, et voilà, les choses se sont faites comme ça. Peut-être qu'il en avait parlé avec son papa auparavant, je ne connais pas tous les détails, mais voilà, c'est des façons simples. Et puis, aussi, cet exercice et ce discernement qui, à mon avis, devrait être là dans tous les cas. Il n'y a pas des cas où on peut dire les yeux fermés, etc. Dieu nous demande d'être présent et vigilant. Alors, en conclusion, par rapport à ce sujet de la réception, on ne participe pas à la scène, et d'ailleurs aux autres actions d'une assemblée, comme je l'ai dit, de sa propre autorité. Parce que sinon, c'est là où on ne vit pas l'unité du corps de Christ. Vous voyez ? Si on dit « moi je suis tout seul », mais on est conscient d'avoir cette relation horizontale qui est tellement développée, pensez à tout ce chapitre de 12 de 1 Corinthiens, une relation horizontale qui comporte des privilèges, mais aussi des responsabilités, avec ses frères et sœurs. Deuxième sujet, le sujet de l'appartenance. Est-ce qu'on est membre d'une assemblée ? Est-ce qu'on est membre d'une assemblée ? Dans un sens, non. Comme je l'ai dit, on est directement membre du corps de Christ, et le corps de Christ n'est pas formé de sous-corps ou d'assemblée, et on a cette relation directe. Dans un sens, non. Mais dans un autre sens, oui. Je pense qu'il est bon de se rattacher à une église locale. Sûr que parfois, ça peut être un peu confortable. On va ici, on va là, on va ici, on va là, etc. C'est peut-être encore plus le cas dans des grandes villes. C'est peut-être encore plus le cas quand on est étudiant ou que sais-je. Voilà, on a la possibilité. Mais je pense qu'il est bon de se rattacher à un endroit. Pourquoi ? Pour y être actif, les dons sont généraux, on le sait. Mais par contre, il y a des tâches qui ne peuvent s'exercer que localement. Et si on ne se rattache pas à un endroit, on ne peut pas exercer ses tâches. Et ça, c'est un point important, parce que papillonner, finalement, ça laisse la responsabilité aux autres, hein, à ceux qui s'astreignent, entre guillemets, à être là. Et deuxièmement aussi, pour que d'autres se sachent responsables de moi, un sujet très important dans l'Église, c'est le sujet des anciens. Les anciens, ils doivent être là, ils doivent veiller sur les âmes, ils doivent avoir le souci des personnes. Et pour que ce souci des personnes puisse s'exercer, il faut savoir où commence et où s'arrête le troupeau. Et si on a des brebis qui font que coucou de temps à autre, ça sera plus difficile d'avoir ce rôle pastoral qui est nécessaire quand le rôle d'ancien peut s'exercer de façon heureuse. Pour autant, il n'y a pas de médiation par l'Assemblée, ça c'est un point important. Je suis directement responsable devant le Seigneur et mon don est pour l'ensemble du corps. C'est vrai que je n'ai pas demandé l'autorisation à mes frères et sœurs d'Anthony de venir ici pour vous faire cet exposé quand j'ai été invité. Pour autant, je suis heureux de le faire en communion de pensée et de cœur avec eux. Ça me serait plus difficile si je savais qu'ils étaient fâchés que je vienne vous voir. Ce n'est pas le cas du tout, rassurez-vous. Mais vous voyez, donc je pense que l'équilibre est à maintenir, hein, entre cette appartenance à la fois globale et locale. Et on voit bien que la parole de Dieu elle-même supporte ces idées. Rappelez-vous les textes, il est dit dans le même chapitre 12 des Corinthiens que tous nous avons été baptisés en un seul corps, tous les chrétiens dans tout le monde, de tous les temps, mais en même temps aussi, l'Église à Corinthe était corps de Christ, ici et là. Et maintenant. Un troisième sujet, c'est le sujet de la discipline. Un sujet de la discipline. En fait, c'est hors sujet. C'est hors sujet, pourquoi ? Parce que, je l'ai dit et je le répète, je martèle un peu le point, le vrai chrétien ne peut jamais être ôté du corps de Christ. Donc, ce serait plutôt l'Église vécue comme maison, que l'Église vécue comme corps qui nous en conduirait à voir ce sujet. Mais bon, comme malheureusement on confond parfois un peu les choses, évoquons néanmoins ce sujet. Peut-être pour clarifier d'abord les choses, il me semble qu'il faut poser les bases. La discipline, dans la parole de Dieu, se vit à quatre niveaux. Il y a d'abord la discipline personnelle. Paul y fait mention en parlant de la scène en 1 Corinthiens 11, verset 31, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Donc on a une discipline, on a à se discipliner soi-même. Si on s'appelle les disciples du Seigneur, si on veut être disciple du Seigneur, ça veut bien dire qu'il faut avoir une certaine discipline dans sa vie, cette discipline qui passe par ce qu'on appelle le jugement de soi, c'est-à-dire tout simplement la confession de ses manquements devant le Seigneur, quand l'esprit nous en rend conscient. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Deuxième niveau de discipline, c'est ce qu'on appelle la discipline paternelle. Quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés par le monde. Ça, c'est Dieu lui-même en tant que Père, de la même manière que quand on était petit, nos parents nous corrigeaient quand on avait mal fait. Dieu qui agit dans sa discipline, peut-être en permettant des circonstances difficiles comme pour les Corinthiens dont certains étaient malades, non pas que toute maladie soit une discipline paternelle, même si elle contribue à cette discipline selon Hébreux chapitre 12, mais néanmoins, voilà, chacun le sait pour soi-même dans sa vie que Dieu agit aussi envers nous. Une troisième discipline, qui en fait est la seule qui est vraiment dans le sujet, c'est la discipline fraternelle. où je reprends ce texte de 1 Corinthiens 12, verset 25, que les membres aient un égal soin les uns des autres. Cette discipline fraternelle, c'est cet encouragement, cet encouragement à être disciple ensemble, à vivre ensemble comme disciple. Et donc, quand il y a quelque chose chez notre frère qui nous semble peut-être, eh bien, avec amour, avec humilité, avec douceur, avec patience, eh bien, on peut s'être en être les uns aux autres. Et Dieu veuille que ce soit davantage le cas. Qu'est-ce qu'on fait en général quand on constate quelque chose chez notre frère qui nous gêne? On se dit, mais là, ça me gêne un peu, on va en parler à quelqu'un d'autre. Au lieu d'essayer d'avoir cette démarche qui viserait à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et la quatrième, c'est la discipline ecclésiastique. Donc, peut-être c'est celle-là qu'on avait en tête quand j'ai affiché le mot discipline. Donc, disons-en quelques mots. D'abord, il faut reconnaître qu'elle est nécessaire. La discipline ecclésiastique, c'est que dans l'histoire de l'Église, on a toujours oscillé entre deux extrêmes, trop de rigueur ou trop de laxisme. Soit on laisse faire, soit au contraire, on sévit pour des vétilles. Eh bien, la discipline, selon la parole, il me semble, c'est ni l'un ni l'autre. La discipline consiste d'abord à avertir et enseigner avant d'exclure. La discipline consiste aussi à apprécier un état, pas une chute ponctuelle. Rappelez-vous ce que nous avons lu dans 1 Corinthiens 5. Si quelqu'un appelait frère « et ». Et parfois, j'ai une circonstance très triste où un frère, s'était laissé aller à une aventure extra-conjugale, il avait regretté tout de suite après, il en avait parlé avec sa femme, il s'était expliqué, ça avait été réglé. Il se trouve que quelques mois après, le sujet a été connu de certains frères et il a été exclu pour un an pour le principe. Mais si vous voulez, ça c'est quelque chose qui n'est pas juste. Ce n'est pas juste à mon sens, parce que ce n'était pas un état, c'était une chute ponctuelle. Il y avait eu reconnaissance du péché, confession, même réconciliation de couple. Pourquoi, quelques mois après, rouvrir la chose et par principe, on t'exclut un an, voilà, c'est le tarif. Non. Non, non, c'est pas comme ça qu'on doit faire. On doit apprécier un état, pas une chute ponctuelle. Et puis aussi, encore un autre point, on doit juger les actes, les faits, et non pas les motifs ou les tendances. Ouh, celui-là, il a une tendance à se... Moi, j'ai une tendance à beaucoup de péchés dans mon pauvre cœur. Parce que malheureusement, on est susceptible de pécher gravement, si le Seigneur ne nous garde pas. Donc, l'important, c'est de juger des faits, des actes. Et là, vous voyez, c'est là où l'Ancien Testament peut nous être en aide. Dans le Deutéronome, on ne va pas trouver l'histoire de l'Église, on ne va pas trouver la discipline ecclésiastique, mais on va trouver quand même une histoire intéressante. S'il y a un problème, qu'est-ce qu'il était dit de Deutéronome au chapitre 13 ? Tu iras, tu t'enquerras soigneusement si la chose est bien ainsi, et après seulement tu agiras. Vous voyez, combien c'est important de juger les actes, les faits. Et puis prendre garde aussi à l'état d'esprit dans lequel elle est exercée. On passe peut-être un peu au-dessus, parce que c'est des expressions dont Paul parsème ses épîtres, mais elle est très importante dans ce contexte. En 1 Corinthiens 5, verset 4, Paul dit « Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ !» Prends pas le nom du Seigneur en vain. Il est important aussi de tenir compte des avis personnels, dans la soumission. Peut-être que sur une situation particulière, on n'est pas tous de même avis. Eh bien, on écoute ce que dit l'autre. On écoute parce qu'on est soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. Ça, c'est beaucoup plus dans le sujet du corps de Christ. Et enfin, on se souvient qu'il y a une gradation dans la discipline. Alors, d'autres ont écrit de façon plus développée là-dessus, je fais juste que mentionner. Il est question en 1 Thessaloniciens 5, 14 d'avertir, dans Romains 16 et dans Tite 3 d'avoir l'œil, dans Tite 1 on peut aller jusqu'à fermer la bouche, et enfin, ultimement, mettre dehors ou ôter le méchant, et cela pour viser le relèvement, puisque le seul cas d'excommunication qui soit mentionné dans le Nouveau Testament, à savoir l'incestueux de 1 Corinthiens 5, si on a du moins cette lecture-là de 2 Corinthiens 2 et de 2 Corinthiens 7, c'est la mienne, a été couronné de succès, puisque Paul peut parler de larmes, peut parler de rétablissement. C'est magnifique, vous ne trouvez pas que l'exemple qui nous soit donné ait eu des conséquences positives. On voit bien que le but de la discipline, c'est d'abord la personne qui est tombée dans un mauvais état. C'est elle qu'on doit avoir devant les yeux. Alors que bien souvent, on a dans les yeux, on va ôter le chancre là, qui nous fait honte. Non, c'est pas cela. Alors venons-en à propos de chancre, sujet de la souillure. Parce que là aussi, parfois c'est des questions qu'on a rapprochées au sujet de l'unité du corps. La souillure dans le Nouveau Testament, c'est en fait une vision nouvelle par rapport à l'Ancien Testament. Oh, on peut le voir à propos de beaucoup de textes. Le Seigneur, déjà en Marc 7, par rapport à ces pharisiens qui nettoyaient le bord de la coupe et du plat, mais qui n'hésitaient pas à spolier leurs parents pour se faire bien voir des autorités du temple, dit « mais c'est du cœur que viennent les souillures, etc. » Sorte que la souillure, ce n'est pas tellement le contexte extérieur, c'est ce qu'il y a dans mon cœur. Et en acte 10, Pierre a de la peine à comprendre que tous ces animaux qui descendent dans le grand linge, eh bien finalement, ces animaux-là, ils ne sont, c'est pas avec ça qu'il va se souiller, Pierre. Mais par contre, ce qui le souillerait, c'est de se croire seul, juif, bon, et de ne pas vouloir aller chez Corneille. Ha ! Quel renversement ! Alors, quand y a-t-il souillure ? Alors, je mets que c'est un point important à ne pas négliger, parce que on a des textes qui sont très importants. Par exemple, je pense à 2 Corinthiens 7, à verset 1, on est dit « purifiant de toute souillure de chair et d'esprit, achevant la sainteté dans la crainte de Christ ». Donc, la souillure, on est appelé à se purifier de souillure. Mais quand y a-t-il souillure ? Il me semble qu'il y a souillure quand il y a un péché connu, non jugé. Connu, non jugé. Et c'est ce qu'on trouve dans 1 Corinthiens 5. Quel était le problème à Corinthe ? Quel était le problème à Corinthe ? C'est qu'ils se vantaient. Il y avait un cas d'inconduite sexuelle grave. Oh, nous, on est cool. On est cool à Corinthe. On laisse faire. Et même ils se vantaient de dire ben oui, nous sommes une assemblée, une église, voilà, qui a une vision. Tranquille des choses, large, et puis voilà, ouais, et puis c'est des histoires personnelles. Non, votre vanterie n'est pas bonne. Savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte tout entière ? C'est cela le point que vise Paul, me semble-t-il, dans ce chapitre. Et c'est pour cela, parce que justement, il peut y avoir cette souillure s'il y a ce péché connu non jugé, qu'il est nécessaire de ne pas laisser la communion à la seule appréciation individuelle. Ça, c'est ce qu'on appelle le principe large. Si un péché connu n'est pas jugé, les membres de l'Assemblée en sont souillés. C'est pour cela que Paul dit « vous soyez une nouvelle pâte afin que vous comme vous êtes sans levain ». C'est vrai que fondamentalement, nous sommes sauvés par l'œuvre du Seigneur Jésus, mais on peut laisser s'introduire ce levain. Et nous sommes appelés à vivre sans levain, à ne pas vivre dans la souillure symbolisée ici par le levain. Mais à vivre une vie, c'est pour ça qu'il est parlé de la fête des pains sans levain, célébrons la fête, sous-entendu la fête des pains sans levain, 7 jours, un symbole de complétude, toute notre vie, nous sommes appelés à la vivre, non avec du vieux levain, mais avec des pains sans levain de sincérité et de vérité. Donc si un péché est connu et n'est pas jugé, les membres de l'Assemblée sont souillés parce qu'ils ne se sont pas purifiés. Et ça c'est un point important, et parfois... Comment dire ? On manque là-dessus. Parce qu'il y a parfois des péchés connus, pas forcément le cas d'adultère que je mentionnais tout à l'heure, mais il y a des situations dans les églises qui sont des souillures auxquelles on ne fait pas attention. Des cas, par exemple, de dissension grave, je parle de dissension grave, qui demeurent, dans lesquelles les gens persistent, entre familles, par exemple, ou que sais-je. Et puis on fait comme si de rien n'était, on laisse les choses comme cela. Et puis qu'est-ce qui se passe dans les faits ? Eh bien, tôt ou tard, il y en a un des deux qui saisit un prétexte doctrinal pour exclure l'autre. Et puis hop, on déguise des problèmes de personnes derrière des questions doctrinales. Et c'est pour cela qu'on en revient toujours à Éphésiens 4, versets 1 à 3, ou 1 à 6 plutôt. L'unité du corps, il y a un seul corps, l'unité de l'esprit. C'est pourquoi s'il y a un esprit de pardon, de support, etc., ça ne se vivra pas. Un autre cas aussi. Un de mes grands-oncles me racontait qu'il y avait une église dans le sud-est de la France, qu'il connaissait bien, dont un des frères principaux était avare. Mais vraiment avare. Vraiment avare. Vraiment en rapia. Et sa famille en souffrait. Et ce frère-là, eh bien, on ne s'en est pas occupé. Et ça a été la ruine de cette Église. Lui, il avait 96 ans passés quand il me racontait ça, donc il avait le recul de l'histoire. Il avait pu constater au cours des années que ça avait été la ruine de cette Église. Et il m'a dit, tu sais, on aurait dû faire quelque chose vis-à-vis de ce frère par rapport à ce sujet-là. Mais on n'a pas fait. Voilà. Donc là-dessus, attention à la souillure. Hein, parce que nous, souillure, on pense peut-être des choses qui... on n'est pas souillé parce qu'on accueille ici un frère, mais qui n'a peut-être pas la même vision que moi sur le rôle des sœurs, sur que sais-je. Ça ne souille pas. Par contre, tolérer pendant des années, des dizaines d'années, des comportements ou des situations qui sont vraiment à l'opposé de Éphésiens 4, versets 1 à 3, cette douceur, de ce support, de ce pardon, etc., mais ça souille. Donc nous avons vu quelques aspects localement, maintenant voyons l'unité du corps entre églises. Alors, on dirait là encore une fois, tu te contredis, tu nous as dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas de sous-corps, que l'église était formée de chrétiens en relation directe avec la tête, c'est vrai, mais c'est parfois des choses aussi qu'on met sous ce terme-là. Donc essayons de regarder quelques points par rapport à ce sujet. Et là encore, je crois que le plus sage, c'est de prendre les exemples du Nouveau Testament et d'essayer d'en tirer des principes. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'il est question de... Dans le Nouveau Testament, il est souvent question de l'Église ou de l'Assemblée du Dieu vivant. Parfois, il est question des Églises ou des Assemblées. Par exemple, en Actes 9, verset 31, « Les Assemblées par toute la Judée et la Galilée et la Samarie étaient en paix, étant édifiées et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle croissait par la consolation du Saint-Esprit. Vous êtes devenus imitateurs des assemblées de Dieu qui sont dans la Judée, dans le Christ Jésus. » Et je vous signale juste pour ceux que ça intéresse, que je parle sous le contrôle donc le Marc, mais qu'il y a une leçon textuelle intéressante en Actes 9, 31, puisque selon les manuscrits, on trouve l'assemblée ou on trouve les assemblées. Et apparemment, la critique textuelle rend difficile le choix entre les deux options, justement pour montrer qu'il y a ce lien entre l'assemblée et les assemblées. Et peut-être que les copistes ont eu de la peine à trancher entre les deux. Ils avaient bien compris l'interaction. Deuxième exemple, c'est en Galatie et en Asie, pour ce qui est de la collecte qui se fait pour les saints, comme j'ai ordonné aux assemblées de Galatie. Ainsi, vous aussi faites. Les assemblées d'Asie vous saluent. Et en Macédoine, nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu donnée aux saints dans les assemblées de Macédoine. Et si on regarde le contexte de ces versets, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il y a des assemblées qui sont données en exemple, vous êtes devenus les imitateurs. Il y a des assemblées qui sont données en exemple aussi parce qu'il y a de la solidarité financière, il y a des échanges financiers. Et puis, il y a des salutations, elles vous saluent. Donc ça nous montre que comment les assemblées dans le Nouveau Testament interagissaient-elles entre elles, d'abord en étant les exemples les unes des autres. Il n'y a pas de honte à dire ben, « qu'est-ce qui se passe dans votre église ? C'est intéressant. Ah ben ça, tiens, je pourrais en parler. Ça me semble intéressant à appliquer chez nous aussi. » Parce qu'on peut être un exemple les uns aux autres, collectivement, de la même manière que individuellement on est appelé aussi à être en exemple les uns aux autres. Collectivement, c'est le cas aussi. Si telle église fonctionne à, je sais pas, un détail de fonctionnement qui est intéressant, on peut y réfléchir aussi pour savoir si ça s'applique à Pau, à Anthony ou ailleurs. La solidarité financière aussi joue, à mon avis, un rôle très important pour lier les églises entre elles. Et puis, les salutations. On le fait traditionnellement à la fin des lettres de recommandation, mais c'est aussi heureux, je trouve, quand on dit, ben voilà, je vous salue de la part des frères et sœurs d'Anthony. Autres exemples que nous trouvons, alors là c'est plutôt un enseignement commun. Dans l'Épître aux Corinthiens en particulier, puisqu'il y a 4 sur les 5 textes que je cite qui viennent de 1 Corinthiens, Paul met beaucoup l'accent sur le fait qu'il n'a pas un enseignement à Corinthe, un enseignement à Éphèse, un enseignement à Antioche qui soit différent. Il y a la même base. Timothée vous fera souvenir de mes voies en Christ selon que j'enseigne partout dans chaque assemblée. Que chacun marche comme le Seigneur lui a départi, chacun comme Dieu lui a appelé. C'est ainsi que j'en ordonne dans toutes les assemblées. Si quelqu'un paraît pouvoir contester, nous n'avons pas une telle coutume, ni les assemblées de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les assemblées des saints. Et aussi dans Colossiens 4, quand la lettre aura été lue parmi vous, faites qu'elle soit lue aussi dans l'assemblée des Laodicéens, et vous aussi lisez celle qui viendra de la Odyssée. Donc on voit bien, il y a la même Bible pour tout le monde. Et ça, c'est aussi ce qui nous unit, c'est que nous avons la même référence scripturaire basée là-dessus, et les mêmes principes. Par contre, quand il s'agit des détails pratiques, on ne trouve quasiment rien. Moi, j'ai toujours été très frappé que Paul écrive à Timothée, en 1 Timothée, en lui disant « Je t'écris pour savoir comment il faut se conduire dans l'assemblée du Dieu vivant » et que, à Timothée, dans ces 6 chapitres de cette première lettre, il donne quasiment rien. Nous, on en aurait fait des tonnes sur le déroulement des réunions, et il faut mettre la collecte sous la forme d'un tronc ou d'une bourse, avant ou après la scène, en début à la fin de la réunion, et puis on en aurait fait des tonnes, parce qu'on est capable de le faire. Je veux dire, qui c'est qui a jamais vécu une réunion d'administration sur ces sujets-là? Mais non, Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il donne des principes globaux. Aussi, il y a que peut-être dans 1 Corinthiens au chapitre 14, parce que vraiment il y avait des débordements exceptionnels qui rentrent un soupçon dans les détails. Et encore. Quand on voit la façon dont ces textes-là sont interprétés par des commentateurs sérieux, attachés à la parole de Dieu, à la lumière en fait de leur expérience propre, on constate que c'est pas si simple. Donc il n'y a presque rien sur les détails pratiques. Par contre, les principes, eux, sont les mêmes. Et c'est sur ces principes qu'il faudrait qu'on réfléchisse, qu'on passe plus de temps, et moins sur les détails pratiques. On peut être heureux de vivre dans une église qui fonctionne selon un mode, heureux d'une église qui fonctionne dans un autre mode sur des questions pratiques, peu importe. Par contre, on ne sera pas heureux de fonctionner dans une église où il n'y a pas la paix, où il n'y a pas le support, où il n'y a pas la douceur, où il n'y a pas le pardon, où il n'y a pas l'amour. Et ça, c'est dur à vivre. Mais ce n'est pas dur à vivre que si, sur le plan pratique, c'est organisé un peu différemment. On a eu le cas récemment où on se trouvait dans une ville où il n'y avait pas d'église, d'assemblée de frères, comme on dit. On est allé dans une église évangélique. Eh bien, les choses ne se passent pas exactement comme Anthony, mais on a passé un très bon dimanche. Pourquoi ? Parce qu'on a retrouvé, dans cette petite église exactement ce qu'on voit en Éphésiens 4, versets 1 à 6. Exactement. Alors, ce qui est intéressant aussi, ce sont les relations entre Jérusalem et Antioche. Parce que ces deux églises, on les voit souvent fonctionner l'une avec l'autre. Alors, comment ça se passait? Il y avait d'abord ce que j'appelle une affectueuse filiation. Jérusalem était l'église mère, celle où se trouvaient les apôtres. Et puis, il y a eu, suite à la dispersion liée à la persécution après la mort d'Étienne, des croyants juifs, d'origine juive, qui sont allés un peu partout, puis ils ont commencé à parler à des non-juifs, puis il y a une église qui s'est formée à Antioche. Bon, comment ça va se passer? Le bruit en vint aux oreilles de l'assemblée qui était à Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas pour aller jusqu'à Antioche. D'ailleurs, c'était bonne pioche, sans jeu de mots, parce que Barnabas, c'était vraiment l'homme de la situation, quelqu'un, le fils de la consolation, celui qui pouvait se réjouir ayant vu la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ouh là là, mais Antioche, vous faites comme ça. Attendez. À Jérusalem, on fait totalement différemment. Donc, vous allez vous caler sur l'église mère. Puis à Jérusalem, il y a l'apôtre Pierre. Vous savez qui c'est, Pierre? C'est lui qui a les clés. Donc, s'il vous plaît. Non, il ne fait pas ça. Il voit la grâce de Dieu, il se réjouit. Mais si on avait cet état d'esprit-là, plutôt que de chercher la petite bête, vous ne faites pas exactement comme nous on fait. Il se réjouit et après, il exhorte. Peut-être qu'il y avait des choses, on ne sait même pas. Luc ne s'étend pas là-dessus. Il dit simplement qu'il y avait une exhortation. Une exhortation à faire comme à Jérusalem? Non. Une exhortation à être attaché au chef, à la tête du corps, parce que le corps est moins important que la tête. Il les exhortait à demeurer attachés au Seigneur de tout leur cœur. Et de sorte que se développe à Antioche une réelle autonomie, et Antioche peut envoyer Barnabas et Paul en mission, sans en référer, sans avoir l'estampille préalable de Jérusalem. Il y a aussi même une solidarité financière, on sait qu'elle s'exprime lors de la sécheresse, de la famine qui avait été annoncée par Agabus. Par contre, ce qui est triste, c'est que Jérusalem va exporter ses propres problèmes par des visites peu importunes à Antioche. On trouve ça au chapitre 15 du livre des Actes. Mais cela va être réglé entre ces deux églises par la montée de Paul et Barnabas avec d'autres à Jérusalem pour régler les choses. Donc on voit bien que le principe, c'est de s'en référer à l'assemblée d'où viennent les fautifs, quand il y a comme ça des problèmes. Où c'est qu'on trouve encore d'autres exemples de relations entre églises dans le Nouveau Testament? Eh bien, c'est dans l'Apocalypse, puisque le Seigneur adresse cette lettre à cette église. Et, chose remarquable, il établit une relation directe de chaque église avec son Seigneur. Une relation directe. À l'ange de l'assemblée qui est à Éphèse, écrit, voilà ce que dit celui, etc. Les sept anges, les sept étoiles sont les anges des sept assemblées, et les sept lampes sont sept assemblées. Donc il y a une responsabilité de chaque église qui est très clairement établie. J'ai contre toi. Apocalypse 2, verset 4, de 14, 20, etc. Donc c'est le Seigneur qui a cette relation avec chaque assemblée qui est responsable. Et c'est lui seul qui ôte la lampe. C'est lui seul qui ôte la lampe. Il n'est pas demandé à Philadelphie, au hasard, d'aller voir à Éphèse pour voir si la lampe est ôtée ou pas. C'est le Seigneur. Voilà. Sinon, j'ôte la lampe de son lieu. Donc la responsabilité de chaque église est établie très clairement. Et pourtant, les dangers sont proches. Et j'ai toujours été frappé en rapprochant ce qui se passe à Éphèse et ce qui se passe à Pergame. Si vous prenez une carte de l'Asie mineure, j'en ai une à la fin de ma Bible, franchement, Éphèse et Pergame, c'est pas si loin que ça. Ça fait, je sais pas, peut-être 150 km. Enfin, il y en a qui sont peut-être allés en Asie mineure et qui ont mieux les distances en tête, mais c'est pas deux assemblées hyper loin. Qu'est-ce qui se passe? À Éphèse, ils haïssent la doctrine des Nicolaïtes. Très bien, satisfaisite. À Pergame, ils laissent faire les Nicolaïtes. Et pourtant, ça aurait été facile de dire à Éphèse, eh bien, va voir à Pergame et va t'occuper de Pergame, puisque toi, sur les Nicolaïtes, tu es bon. Non. Le Seigneur s'adresse directement à chacune de ces églises. Parce que c'est chaque église qui doit régler ça. Pourtant, Éphèse aurait eu aussi des lettres de crédence à montrer, parce que c'était effectivement une église où Paul était resté longtemps, blablabla. On aurait pu imaginer beaucoup de choses. Mais non, le Seigneur s'adresse à chaque église individuellement. Pour autant, les avertissements sont à prendre en compte par tous. C'est pour ça que chacune de ces sept lettres se termine néanmoins par cette expression que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'Assemblée d'Éphèse, aux assemblées, aux différentes assemblées. Parce que si Pergame laissait faire les Nicolaïtes mais avait encore le cœur chaud pour le Seigneur, eh bien elle avait écouté cet avertissement sur le premier amour que Paul donnait à Éphèse, et réciproquement. C'est bien pour ça sans doute que les sept lettres ont été consignées dans un seul et même livre. Alors, comment on va reconnaître une assemblée? Qu'est-ce que c'est qu'une assemblée qui se réunit sur le terrain de l'unité du corps? Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce patois, mais ça parlera quand même à certains. C'est une assemblée qui n'ajoute pas de conditions autres que se réunir comme simple chrétien. Ben oui, c'est ça la base. Et qui reconnaît les conditions que j'appelle scripturaires. Accepter seulement les vrais chrétiens nés de nouveau. Ne pas tolérer sciemment le mal moral et le mal doctrinal, qui sont chaque fois rapprochés de cette image du levain. Je dirais que sur le mal moral, ça pose pas. Ça pose peut-être moins de problèmes, parce que là-dessus, on peut facilement arriver à quelque chose, un point de compromis. Par contre, que signifie le mal doctrinal? Bien, il me semble que ce ne sont pas des questions d'organisation ecclésiastique. Parce que si ça avait été le cas, d'organisation concrète, je dirais, si ça avait été le cas, il me semble qu'on les aurait trouvés en Éphésiens 4. Il me semble qu'on les aurait trouvés en 1 Corinthiens 12. Il me semble qu'on les aurait trouvés en 1 Timothée. À mon avis, ce ne sont pas des questions d'ordre secondaire, sur les points prophétiques. J'ai mis sur le baptême avec un point d'exclamation, puisque les assemblées de frères se caractérisent par cette situation très paradoxale au regard du monde évangélique en général, où on accepte simultanément le baptême de croyants nés de nouveau et le baptême des petits-enfants. Parce que ça c'est l'histoire, c'est le poids de l'histoire. Parce qu'il y a eu une lettre un jour qui a été écrite par quelqu'un et qui a permis qu'il n'y ait pas de division sur ce sujet-là. Mais ça devrait être le cas aussi sur un certain nombre d'autres points. Par contre, il peut y avoir des atteintes à des points fondamentaux. Lesquels sont-ils? Ah, alors ça, c'est toujours une question très délicate. Là, je vais vous propose ce qui me semble être les points fondamentaux. Pour moi, j'en vois 5. Le premier, c'est la Bible. La Bible qui est seule référence qui fait autorité. C'est le seul guide pour nous de foi et de conduite. Le deuxième, c'est Dieu. Reconnaître Dieu comme infini, trinitaire, éternel, amour et lumière. Le troisième, c'est l'homme, créé par Dieu, pécheur à la suite d'Adam. Le quatrième, c'est Jésus-Christ, avec sa nature, vrai Dieu, vrai homme, sa vie, son incarnation, sa mort, sa résurrection, sa place actuelle, glorifiée, sa seigneurie, son autorité, et son œuvre qui est expiatoire, acceptée par Dieu et efficace. Et enfin, le salut, qui est par la grâce, au moyen de la foi sans les œuvres. Finalement, on n'est pas si loin des 5 solis des réformateurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres points? Il y a les points adjacents que je signalais, qui me semblent être liés au texte sur le corps. Par exemple, les soins mutuels et le support. C'est vrai qu'une église où il n'y a aucun soin mutuel, aucun support, c'est difficile. Parce qu'il y a tellement de textes qu'on a vus dans la première partie qui nous parlent de ça. On n'entend peut-être pas suffisamment assez parler. La pratique de la responsabilité mutuelle et de la discipline aussi, ça c'est des points, il me semble, être importants. Ce ne sont pas des points fondamentaux, mais c'est ce que j'appelle des points adjacents. Et puis, mais je l'ai mis avec un point d'interrogation, la liberté d'action de l'esprit pour les dons. Personnellement, mais ça aussi je vous le propose, je suis personnellement assez attaché à ce qu'il y ait place, ça peut être plus ou moins important, mais place à l'exercice des dons dans une église. Quand il y a interdiction à quiconque qui n'est pas ordonné pour cela de prendre la parole, personnellement, je suis moins à l'aise. Parce qu'il me semble que c'est justement le fonctionnement de l'Église comme corps va avec cette interaction des dons. On a vu ça en Romains au chapitre 12, on a vu ça en 1 Corinthiens au chapitre 12. Donc, une Église pour qui ces 5 points fondamentaux sont clairs, qui a à cœur, avec les défaillances, jamais on fera assez de soins mutuels, mais qui a à cœur de pratiquer ces soins mutuels, ce support, cette pratique de la responsabilité mutuelle et de la discipline, et qui laisse une mesure, hein, parce que qu'on ne se voile pas la face, même nous aussi, on entrave la liberté de l'action de l'esprit, hein. Elle n'a jamais sa pleine liberté d'action, mais qui laisse quand même une mesure de liberté d'action de l'esprit, eh bien cette Église-là, il n'y a aucun problème. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une liste de ces Églises-là? Oh, ce serait pratique. Ce serait confortable. Je peux y être? Ah, désolé, vous n'y êtes pas. On est à la porte. Ah, c'est bon, vous y êtes, je ferme les yeux, je me préoccupe de rien. Ça permet d'éviter ce qu'on appelle l'exercice. Alors, qui c'est qui gère la liste? Le Seigneur en comité? Un webmaster? J'aurais dû mettre ça. Ouais, il y a un danger, hein, moi je trouve. Il y a un danger parce que, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait un sous-cercle. Un sous-cercle de communion. L'assemblée qui nous ressemble un peu, qui fonctionne, etc. Alors, en pratique, qu'est-ce qui se passe? En pratique, ce qui se passe, c'est qu'il y a des visites, il y a des nouvelles, il y a de l'intérêt porté. Ben voilà, c'est pour ça qu'il y a des échanges entre l'Église. Il peut y avoir aussi cette solidarité financière qui s'exerce. Et ce que je vous propose, ça aussi c'est une proposition, je ne fais pas d'enseignement d'autorité là-dessus du tout, c'est qu'il me semble qu'on peut avoir plusieurs degrés de reconnaissance possibles. Il y a des Églises auxquelles on est très lié par le poids de notre histoire, et ça on ne peut pas le méconnaître. On est très lié par une communion sur laquelle, selon Philippiens 3, verset 15, on marche dans le même sentier, vraiment loin, parce qu'on a beaucoup de choses en commun. D'autres auxquelles on est lié, mais un peu moins, et puis d'autres, au contraire, auxquelles on est encore moins lié. Il peut y avoir une gradation là-dessus, ce n'est pas du noir ou du blanc. On est sur la terre, chers frères et sœurs. Et sur la terre, ce n'est pas le noir ou le blanc. Sur la terre, c'est avec toutes les nuances de gris dans lesquelles nous vivons, chacun de nous. Qui peut dire qu'aujourd'hui il vit totalement le blanc dans sa relation avec le Seigneur? Il serait bien prétentieux celui-là. Donc, il me semble qu'on peut penser à cela. Alors, ça c'est très bien quand on est installé à Pau et qu'on dit « qu'est-ce que je vais reconnaître comme autres églises ?» Et puis aussi, on peut se dire « où vais-je aller ?» Et là, je pense qu'il y a à la fois une responsabilité individuelle et collective. Il y a la responsabilité individuelle du serviteur. Chacun de nous rendra compte pour lui-même à Dieu. Et dans 2 Timothée 2, il est dit « si donc quelqu'un se purifie de ceci, il sera un vase à honneur sanctifié, utile au maître, préparé pour tout bonheur. » C'est une responsabilité personnelle. Donc il y a ma responsabilité vis-à-vis de l'église ou de l'assemblée où je vais. D'abord, il y a ma responsabilité de ne pas y apporter mon mauvais état, ma mauvaise pratique, mes mauvaises idées doctrinales. Il y a aussi ma responsabilité de m'enquérir de leurs principes et de leurs pratiques. C'est vrai que si je vais dans une église où la Bible n'est pas reconnue comme faisant autorité, je vais être mal à l'aise, parce que pour moi ça fait autorité. Et puis il y a la responsabilité aussi de ceux chez qui je vais, en particulier de me poser des questions. Ben oui, bon là Edouard m'a fait confiance, mais à la limite il aurait pu ce matin en m'accueillant à l'aéroport me dire « ben voilà Joël, dans ta relation avec le Seigneur, ça va parce que si tu ne peux pas venir pour nous présenter un sujet, si il y a un péché grave dans ta vie dans lequel tu es. » Et ça, on ne le fait pas, bien entendu, mais... Puis c'est peut-être aussi un exercice à partager avec d'autres dans mon assemblée, avec sagesse et mesure aussi. On n'est pas obligé de dire tout à tout le monde. Ce qui est encourageant, je trouve, c'est que le Seigneur dirige et il fera connaître et lui sait qu'il le reconnaît. Vous savez, parfois on se retrouve dans un endroit, il n'y a aucune assemblée qu'on connaît, voilà, et puis dirigé vers un endroit. Et c'est arrivé parfois avec Anne qu'on va assister au culte dans cette église-là. On loue le Seigneur, mais il y a des éléments qui ne nous rendent pas très à l'aise, on reste un peu en retrait. Et puis d'autres fois, c'est arrivé qu'on aille dans une autre église. Peut-être que les pratiques concrètes sont un peu différentes de celles auxquelles on est habitué, mais on se sent à l'aise. On sent que, au fond, il y a exactement la même chose. Il y a les 5 points fondamentaux. Il y a ce souci de la responsabilité collective. Il y a peut-être, avant la scène, le frère qui préside le culte qui dit quelques mots sur la responsabilité vis-à-vis de ce souvenir du Seigneur. Il y a, je ne sais pas, c'est parfois indéfinissable. Mais le Seigneur nous conduit là-dessus et on peut vivre des moments très heureux. Dernier point, je vais évoquer ça, mais pas trop longuement, rassurez-vous. Reconnaître une décision d'assemblée. Alors, est-ce que ce doit être automatique ? L'autorité que le Seigneur a confiée à une assemblée est réelle, mais elle dépend de sa dépendance du Seigneur. Et je suis pour ma part totalement persuadé que le Seigneur de gloire et de lumière ne peut jamais ratifier une mauvaise décision et qu'on ne lui forcera jamais la main. Parce que à Christ, rien ne peut jamais être lié qui soit souillé, impur, imparfait, etc. Alors, reconnaître une décision d'assemblée, ça implique, me semble-t-il, un exercice systématique. C'est beaucoup moins confortable, mais le Seigneur nous demandera compte de ce que nous avons fait localement. Cela étant, a priori, j'accueille favorablement une décision. Si vous, à Belloc ou à Pau, vous avez pris une décision dans un sens, a priori, Anthony, je vais l'accueillir, a priori. Sauf si il y a vraiment des choses très, très importantes, mais a priori, je la reçois. Mais pas forcément comme argent comptant dans tous les cas. Alors, de sorte que, en fait, il y a deux principes. Un, qu'on peut dire le principe large, ou dire l'assemblée est totalement indépendante, moi je fais totalement ce que je veux, je ne me préoccupe en rien de ce que vous avez décidé ici ou là. Ou le principe qui me semble biblique, c'est que l'assemblée est responsable, oui, elle est concernée. Elle n'est pas automatiquement liée, elle n'est pas indépendante, vous voyez, ça c'est, me semble-t-il, les deux extrêmes, mais elle est concernée par ce qui est décidé ailleurs. Et enfin, par rapport à la communication de la souillure, on a déjà touché ce point-là sur le plan de l'Église individuelle, là on le touche sur le plan des relations entre Églises. Je pense qu'une assemblée n'est pas automatiquement souillée par ce qui se passe ailleurs, mais elle a à y être attentive. Et je ne vois pas dans la parole de Dieu les questions de chaîne de souillure, mais par contre, qu'il y ait un intérêt mutuel à porter en cas de difficulté, ça je crois que c'est bien évident. Alors pour terminer, il y a des sujets qu'on a abordés, en particulier dans cette deuxième partie, qui peuvent être des sujets pénibles. Ça peut être des sujets qui rappellent de mauvais souvenirs à certains d'entre nous. Des lettres, des pamphlets, des réunions un peu houleuses. Et pourtant, l'unité du corps, ça devrait être un sujet positif. Alors je pense qu'il faut sortir la gemme de sa gangue et voir la beauté de l'Église comme corps de Christ, comme nous l'avons vu dans la première partie. Ce n'est pas théorique, encore une fois. Et la voir sous cet angle-là, de tout ce qu'on a vu, de toutes ces facettes différentes qui concourent à rendre ce sujet beau. Et puis, sur ces sujets, parfois, ils sont un peu interminables. Et on peut se souvenir qu'on peut discuter des heures, des jours, des années sur des détails qui divisent et oublier ce qui unit. Moi, je suis frappé, peiné, affligé de voir combien on peut passer des heures sur les peut-être 0,1, 1,5, allez, mettons 3% qui nous séparent et oublier les 97%. Un jour, j'en discutais avec un frère qui voulait absolument qu'on fasse une réunion d'administration sur un sujet donné et il savait pourtant fort bien que ça allait créer des difficultés. Je lui ai dit, mais écoute, prends ta Bible, en 189 chapitres, 30 000 versets, sur combien on n'est pas tout à fait de la même opinion? Faisons le ratio. Alors. Et puis, je pense qu'il y a des sujets qui sont au moins aussi importants. Et quel temps y consacrons-nous? C'est vrai que quand Edouard m'a dit que vous aviez choisi ce sujet, je l'avais mis sur la liste après tout, hein, c'est ma faute. Mais il y a des sujets que je préfère aborder que celui-là. En tout cas, ceux que j'ai traités dans la deuxième partie. Et je pense sincèrement, que la première partie était beaucoup, beaucoup plus importante que la deuxième. Beaucoup, beaucoup plus importante. Même si peut-être elle était moins, croustillante. Pourquoi ? Parce que nous sommes occupés souvent de choses qui sont rasemotes au lieu de nous occuper du cœur de notre foi. Occupons-nous de Jésus-Christ mort et ressuscité. Que dit Paul à Timothée quand justement tout va mal? En 2 Timothée 2, verset 8, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. » Et souvenons-nous que l'Église est importante, mais la tête l'est encore plus. Alors, vivons l'unité du corps de Christ. Et vous savez, si on s'attache de plus en plus à la tête, eh bien, tout naturellement, je pense que ce sujet de l'unité du corps de Christ sera vécu plus facilement et plus heureusement. Donc, consacrons davantage de temps, peut-être, à d'autres sujets.